genèveactive.ch.
Sandra Gaudin, à la question que les Cahiers du cinéma posaient à Jean-Luc Godard, je cite la question, on voit beaucoup de sang dans Pierrot le Fou, il répond, pas du sang, du rouge. D'ailleurs, il m'est difficile de parler de ce film, je ne peux pas dire que je ne l'ai pas travaillé, mais je ne l'ai pas prépensé, tout est venu en même temps. C'est un film où il n'y a pas eu d'écriture, ni de montage, ni de mixage, enfin un jour. Qu'est-ce qu'on fait justement quand on fait une transfiguration, une transposition, là où il y a quelque chose qui semble surgir de l'instant, même si le récit est assez classique et la structure, elle, l'est moins?
Ouh, la jolie question. Moi, justement, on est parti de cette démarche-là. Ça veut dire qu'on a, j'ai beaucoup travaillé en amont et pour vraiment bien connaître et faire une enquête sur toute la démarche de Godard dans ces années-là, pour pouvoir et pour pouvoir le transmettre aux comédiens et qu'on parte vraiment de zéro, c'est-à-dire d'avoir aucune idée fixe sur ce que ça allait être le spectacle et vraiment de le construire ensemble avec le plus de place possible sur le moment présent, avec des idées émergentes tout d'un coup et des phénomènes un peu étonnants. Mais là, c'est toute la liberté possible. Je crois que c'était le meilleur moyen de parler de la liberté du film que de travailler comme ça. Mais par contre, il fallait quand même une rigueur et une connaissance du propos malgré tout avant, mais sans l'imposer.
Alors justement sur ce côté de travailler avec les comédiens comme s'ils ne savaient pas ce qui allait se produire, c'est vrai qu'il y a plusieurs réalisateurs récents dans le cinéma français qui l'ont fait, comme Philippe Grandrieu par exemple dans Sombre, qui a travaillé effectivement sans scénario, avec un côté très instinctif qui n'est pas nécessairement de l'improvisation. Mais alors là je reprends encore une question des Cahiers, je m'excuse. Les Cahiers donc demandent à Jean-Luc Godard, on a l'impression que le sujet n'apparaît qu'une fois le film terminé. Pendant la projection on se dit qu'il est là ou là. Et c'est à la fin qu'on s'aperçoit qu'il y avait un vrai sujet. Et Godard répond, mais c'est le cinéma cela, la vie s'organise, on ne sait pas très bien ce qu'on fera le lendemain, mais à la fin de la semaine on peut dire, devant le résultat, j'ai vécu comme la Camille de Musset. Alors qu'est-ce qu'il en est justement de cette dimension où Godard a essayé par des plans, par un montage, une utopie totale, c'est-à-dire d'enfermer quelque part, de dire la vie d'une certaine manière, même si elle s'échappait toujours, comme il le dit d'ailleurs ailleurs, comme l'Esquimau dans Nanook, comme le poisson, pardon, dans Nanook. Qu'est-ce qu'il en est alors par rapport à ce fait justement de ces références? Là, il y avait la Camille, il y en a d'autres.
Par rapport aux références dans...
Par rapport déjà au fait justement de qu'est-ce que la vie en fait? Est-ce qu'il y a un avant, il y a un après? Il n'y a pas uniquement un surgissement. Il y a notamment un personnage qui parle vraiment d'une sorte de déclinaison tout le temps au présent.
Oui, ça c'est tiré d'un autre film parce que j'ai pris en fait des autres films de Godard des années 60 dont les dialogues parlaient de la même chose. Donc je les ai, ce qui me paraissait vraiment beau, je les ai mis à l'intérieur. Et puis je me suis permise aussi de mettre toutes les... plein de références qui me plaisaient, qui nous plaisaient à nous, comme Coltès et il y a aussi
Duras, Beckett,
Duras, Aragon, enfin plein, Rilke, parce que parce que lui a en fait pris une trame qui était prétexte, la trame policière, pour y mettre tout ce qu'il aimait. Et puis à un moment donné, il abandonne la trame, ils sont sur une île, même Godard, ça l'intéresse plus, donc il la filme même plus, il la raconte en voix off. Et donc on essaie quand même, nous, de la garder pour pouvoir s'en éloigner aussi, mais de la comprendre en tout cas. Et puis d'y ajouter tout ce qu'on aimait.
Alors justement, cette trame, c'est assez surprenant, parce que quand on lui posait la question ailleurs, justement, qu'est-ce qu'il avait, d'où il était parti en fait pour ce film, il cite pas mal de références, notamment un film qui s'appelle La Chienne, mais il y a aussi La Nouvelle Héloïse, il y a aussi Werther, Le Dernier Couple Romantique, aussi Bergman. Mais c'est vrai qu'en même temps, il y a au départ, puisque Chandler, je crois, est cité ici dans le texte que vous avez retenu, il y a au départ effectivement une intrigue policière que Godard va prendre, puis lâcher, puis reprendre. Alors qu'est-ce qu'il en était justement un petit peu de ces, je dirais pas de ces fils conducteurs, mais tout de même du montage que vous avez voulu faire en annonçant notamment les différents chapitres dans une petite cabine à main gauche?
Oui, ben le montage, j'ai tenu quand même à garder la trame policière. Après j'ai tenu aussi à partir de manière assez fidèle au début de la pièce, en essayant de voir ce que donne le théâtre avec les outils qu'on a pour raconter des scènes de film et comment on passe d'une scène à l'autre quand on n'a pas l'effet du montage. Et après, de s'en éloigner, d'oublier ce côté absolument à vouloir faire toutes les scènes et partir sur l'évocation des choses. les impressions, c'est plutôt des, ouais, c'est des personnages qui laissent des impressions ou qui parlent d'impressions. Et ça, j'en ai rajouté pas mal par rapport au film.
Alors, il y a la compagne, justement, de Ferdinand, qu'elle appelle Pierrot, qui lui dit, tu me parles, je crois, avec des mots, et moi, je te réponds avec des sentiments. Alors, le but du film de Godard, c'était de répondre à cette question, d'une certaine manière, même si, comme vous le citez dans le dossier ou celui du théâtre de Vidi, il y a plus de réponses que... Enfin, il y a plus de questions que de réponses, je crois. Enfin, je ne sais plus exactement la citation. Mais qu'est-ce qu'il en est, justement, sur qu'est-ce que la vie, c'est-à-dire qu'il parle également de l'espace entre les êtres, mais aussi de sentiments et d'émotions. Il y a un très grand lyrisme dans le film de Godard qui est assez peu présent chez vous, par
contre. Quand vous dites lyrisme, c'est par rapport à la peinture, j'imagine, ou à la musique. Donc la peinture, moi je me disais, c'est pas possible de mettre un tableau sur scène, faire un tableau vivant, ou des choses comme ça. J'aime plus travailler avec la lumière, je crois, et avec l'espace, et les comédiens, et je crois que par rapport au cinéma, ce qu'on a de plus au théâtre, hein, vraiment, moi je crois que c'est les acteurs, c'est-à-dire qu'ils ont une marge d'invention et une présence qui est beaucoup plus vivante et autonome qu'au cinéma. Donc c'est les acteurs pour moi qui donnent ce côté lyrique et le jeu, beaucoup plus que l'univers, enfin forcément l'univers, bien qu'à la fin, pour moi on arrive déjà dans un côté fantastique sur la toute fin. Mais je sais plus maintenant la question.
Alors justement, le grand sujet du film, en tout cas pour Godard, c'était, si je le cite, un sujet s'en dégagera qui sera la personne elle-même, l'idée qu'elle se fait du monde. Pour vous, est-ce qu'il y a d'autres choses? Parce qu'évidemment, il interroge l'actualité de l'époque, et notamment le Vietnam, la société de consommation... contre la société du cul. Il y a toute une séquence, d'ailleurs, vous vous rappelez très bien, avec ces phrases qui sont effectivement des slogans publicitaires, cette manière d'abâtardisation de la langue.
Des slogans publicitaires et aussi des idées convenues, reçues sur les gens qui prétendent savoir, sur la psychiatrie surtout, sur des gens qui ont des avis comme ça, tout fait sur les choses. Et je crois que les thèmes... Il le dit hein, aussi au début, c'est la première phrase du film quand Ferdinand lit dans son bain, c'est justement Velázquez ne filmait plus que ce qu'il y avait entre les choses. Et il dit il veut filmer la vie, pas la vie des gens, mais la vie, la vraie vie. Et donc c'était sa recherche et de voir ce qui en émergeait. Moi après, c'est des thèmes qui sont pour moi assez, en même temps, petits et humains. J'ai l'impression qu'il y a quand même, malgré tout, c'est pas pour parler de l'homme est comme ça, la femme est comme ça, et on voulait éviter justement ces clichés. Peut-être que dans le film, il y a un peu plus d'ailleurs. Mais c'est entre une personne qui se sent vivant quand il consomme et il s'amuse et il est dans l'intrigue justement, l'intrigue de l'histoire, il a besoin de l'intrigue pour se sentir vivant, et une autre personne qui est juste dans la contemplation et laisser le passage à la vie. Donc ça, c'est pour moi, c'était des thèmes intéressants pour parler de la vie, ces deux façons. Après, le point de vue politique aussi, c'est pour ça aussi, je ne me suis pas attardée sur les années 60, c'est-à-dire j'ai laissé, ça, pour moi ça ne valait pas la peine de s'il cite... Par rapport aux Américains, oui, il en met une couche, mais on a essayé, hein, on a enlevé les scènes, on a essayé de les faire théâtralement, et puis c'était anti-américain, mais primaire et bête, ça servait pas à grand-chose dans la réflexion. Et puis, il parle du Vietnam, mais alors j'aurais pu dire l'Irak, mais je trouve que ça donne autant de références de parler du Vietnam dans les années 60 que de vouloir absolument transposer à maintenant, en parlant de l'Irak, c'était pas... Donc voilà, je me suis posé ces questions-là, et puis je crois que la politique met toujours dans notre compagnie, hein, on s'appelle un air de rien, parce qu'on n'est pas pour donner de dire les riches sont méchants, les pauvres gentils, et puis la guerre c'est mal. Et... Donc on essaie d'aller un peu plus en finesse, et je crois que la politique elle n'est pas dans les slogans, elle est dans l'être, et c'est comme ça qu'on en parle le mieux, je crois, et de manière plus libre.
Il y a une dimension évidemment chromatique dans cette œuvre, on l'a beaucoup écrit dessus. la dominante du film, c'est le rouge, mais rouge, blanc, bleu. Et c'est vrai que ce chromatique pouvait constituer, disons, un véritable piège dans une transposition comme vous la faites ici. Vous avez choisi de le citer d'abord assez discrètement dans cette soirée du vernissage avec ces couleurs qui se diffusent un petit peu comme des diapositives qu'on passe. Donc il n'y a pas nécessairement une volonté là de faire peut-être pléonasme avec le film. Comment est-ce que vous êtes justement arrivé à ça, puisque c'est quand même quelque chose d'assez étonnant dans ce film de Godard?
Mais avec Pascal Noël, l'éclairagiste, je crois qu'on s'est tout de suite posé la question dans le fait que l'imitation là ne serait pas intéressante. Et effectivement, dans tous les films des années 60, rouge, blanc, bleu, dans tous les plans de tous les films, ça n'arrête pas. Et je pense que là, on le cite souvent, hein, mais c'est sans vouloir non plus l'appuyer plus fortement que ça, parce que ça raconte quelque chose dans l'imagerie du film, mais au théâtre, je ne suis pas sûre que ça rendrait quelque chose. D'ailleurs, c'est impossible, il y a plein de choses, comme le plan séquence dans la voiture, qui est magnifique dans le film, où ils ont juste mis un diffuseur autour, mais c'est cadré. On a essayé au théâtre, c'est un truc, c'est pas transposable, parce que ça, du coup, la lumière part dans tout le théâtre et pas du tout sur le pare-brise. Donc, on a fait plein de réflexions sur la lumière, et je crois que comme c'est une lumière quand même assez naturelle dans le film, enfin c'est assez peu travaillé, parce que d'ailleurs, son chef-op, c'était ses débuts, et puis c'était un chef-op qui travaillait justement pour les reportages de guerre, donc il partait, il faisait ça. Ils ont fait 3 films cette année-là, je crois. Ils ne prenaient pas non plus des plombs pour préparer les plans. Godard savait très bien ce qu'il voulait, mais parce qu'il voit très bien. Mais il a travaillé, effectivement, je pense qu'il a quand même un peu plus préparé qu'il ne le dit son film, mais malgré tout, il y a laissé beaucoup de place à l'instant présent.
Lorsqu'il parle justement de ce rapport à la vie qu'ont les deux personnages, et donc qu'il parle d'Anna, Karina, enfin, qu'il interprétait, il dit « Anna représente la vie active, et lui, donc Jean-Paul Belmondo, la vie contemplative ». De quelle manière justement, vous l'avez cité dès le départ, bon c'est un petit peu comme dans le film, mais c'est un petit peu décalé, lorsqu'il est, il va donc lui-même produire un journal, comment est-ce que vous avez eu justement ces deux caractères assez contrastés en fait?
Comment je l'ai perçu dans le film?
Comment vous l'avez perçu dans le film et essayer de le transposer ici?
Ouais, moi je pense que c'est des questions vraiment philosophiques, mais parce que Godard est un grand philosophe et il était, je pense, proche des philosophes de l'époque. Donc c'était des grandes questions qui, moi, me passionnent. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent vivant et comment laisser au maximum passer la vie sans l'arrêter par des idées reçues, par des choses qui la bloquent? Et donc c'est vraiment ce que j'avais envie de raconter aussi. Donc ça n'a pas été difficile, j'ai amplifié, j'ai essayé de prendre tous ces témoignages là-dessus et je l'ai amplifié, j'ai rajouté plein de phrases d'ailleurs qui parlent de ça, d'ailleurs de Rilke, de plein de... même un peu bouddhiste. Mais parce que moi je pense qu'il était pas loin du bouddhisme, Godard, quand je vois ses propos, enfin du bouddhisme, de certaines idées bouddhistes. Donc j'essaye d'amplifier ça, et effectivement il fait son journal, et c'était une manière pour moi d'utiliser le journal pour parce que dans le film on n'entend pas ce qu'il écrit, enfin c'est tout assuré. Et bon là je me suis dit bon quand même on va profiter de dire ce qu'on a envie de dire avec des phrases de Godard, hein, mais de les dire à travers le journal.
Puis il y a cette rencontre avec Raymond Devos, qui est ici interprété par un comédien dont vous allez nous rappeler le nom. Qu'est-ce qu'il en était justement de cette scène? Parce qu'évidemment, il y a des scènes qui sont extrêmement, extrêmement drôles, on dirait presque du Audiard, mais c'est même beaucoup plus fin d'ailleurs, parfois comme type d'humour. Comment vous avez travaillé, comment vous l'avez envisagé en fait cette scène avec Raymond Devos qui parle de ses ruptures successives par rapport à un micro-sillon?
Oui, c'est vrai que je crois que c'est la seule partie du film ou le seul personnage. On s'est dit, on ne va pas jouer un homme qui entend des airs de musique et qui se fait poursuivre, on va jouer Devos. Enfin, on va donner l'impression en tout cas de Devos. Donc on l'a travaillé comme ça, en y trouvant aussi du concret, parce que dans le Devos, il n'y a plus tellement de concret à la fin, on n'entend plus forcément dans le film là où il veut en venir. Donc on a repositionné ça concrètement. Et puis le comédien avance toujours, c'est étonnant. Je trouve qu'il est étonnant, Jean-Paul Favre.
Alors, on en vient juste à la, à la scène finale, c'est vrai qu'il y a une ouverture au noir. Il y a presque la pièce se scelle presque sur un noir, qui est donc ce moment où la personne, ici Christian Scheid, face à la mer, va se peindre le visage de bleu. Et puis, alors dans le film, évidemment, il y revêt. C'est toujours très intéressant, justement, de voir les béances, de voir les ellipses, mais de voir aussi la discrépance qu'il y a entre le film et votre version. Donc, il revêt cette ceinture de dynamite. Et puis, dans le film, évidemment, il allume la mèche. Après, il veut enlever, enfin, je crois, il veut arrêter le mouvement. Et puis, il explose face à la mer. Alors, ici, il allume même pas la mèche. Donc,
parce que déjà, là aussi, on a pris vraiment la scène du film sans. Il se peint aussi en bleu, effectivement. Je veux dire, on n'a pas essayé de comprendre pourquoi il se peint en bleu et quel est le message là-dedans. On a vraiment repris cette scène pour la rendre la plus simple possible. C'est-à-dire, il se met du bleu, il se met sa dynamite, il allume la mèche. On avait fait venir un artificier pour l'explosion. On a essayé maintes et maintes solutions. Et puis, au final, c'était pas possible parce qu'il allumait la mèche, ça fait... Il disait non. Et puis, il explosait, mais on voyait bien qu'il explosait pas parce que la mèche... continuer à faire de la lumière. Donc, on est revenu à quelque chose de beaucoup plus simple. Ma foi, c'est comme ça. Par contre, après ça, normalement, au théâtre de Vidi, on jouait dans une salle vitrée, les stores se levaient, on voyait la lumière dehors. Quand on parlait de l'éternité, c'était assez beau. On a essayé de transposer ça différemment ici avec le Nicolas Rossier qui joue une allusion de Godard à la fin. Donc, on a essayé de l'éclairer juste différemment.
Alors justement, cette phrase de Godard, c'était « Notre époque est à la recherche d'une question perdue, comme fatiguée par toutes les bonnes réponses ». Alors je ne sais pas s'il y a nécessairement des bonnes réponses par rapport à la mise en scène que vous avez proposée, mais par exemple, il y a cette scène qui est assez étrange lors du vernissage où un personnage joué par Alain Catin arrive torse nu et parle de ce nombre d'or concernant les saints. Qu'est-ce qu'il en était? D'où vient-il?
Alors ça vient de... Une femme est une femme, je crois, un autre film de Godard. Oui, je ne sais plus quelle actrice, Macha Merritt, je ne sais plus laquelle disait ce texte sur les seins. Je trouvais que pour une soirée de vernissage bien snob, ça pouvait bien marcher. Puis par rapport à l'esthétique, quoi, ça on en parle aussi pas mal, par rapport à la consommation, à cette volonté d'esthétisme absolu. C'était une manière aussi de déjouer. Puis dans le film, il y a une femme au sein nu qui parle aussi. Donc voilà.
Et puis alors, vous parliez d'Aragon, donc qui avait écrit ce fameux article « Qu'est-ce que l'art ?» Et puis ensuite, évidemment, ce qu'on peut se demander aussi avec Godard, c'est « Qu'est-ce que le cinéma ?» Alors, je vais vous demander « Qu'est-ce que le théâtre ?» ou « Que peut le théâtre ?» Parce qu'effectivement, avec cette compagnie L'Air de Rien, depuis Flash, que j'avais découvert il y a quelques années, en 2003, au Théâtre de l'Arsenic, vous essayez non pas nécessairement de proposer un art total comme les avant-gardes russes ou alors une scène écran comme on les a beaucoup vus, mais vraiment un mode de narration extrêmement particulier, une sorte de tuilage entre des choses d'origine et des matériaux d'origine assez divers, comme l'avait fait Godard d'ailleurs. Qu'est-ce que ça vous apporte justement de partir au départ d'un matériau non théâtral, même si vous l'avez souligné, le film de Godard est d'une extrême théâtralité?
C'est-à-dire qu'au départ, nous, on a toujours écrit nos textes. Donc il y avait aussi « Je vais te manger le cœur avec mes petites dents », là, qu'on a fait dernièrement, qui était celui-là très théâtral. Mais on a toujours écrit nos textes, et toujours aussi avec une touche d'impressionnisme, comme ça, où plutôt que de donner une idée, justement, c'était plusieurs touches. Et on travaille assez comme ça. Donc tout d'un coup, je me suis dit aussi, parce qu'on avait beaucoup écrit, que c'était bien aussi d'aller se ressourcer vers un auteur, et puis de voir ce qu'il pouvait nous renvoyer. Donc c'est pour ça aussi qu'on a travaillé tout d'un coup sur un texte, sur Godard et sur un film. Et Godard, voilà, c'était aussi pour parler de la personne Godard, et de ce philosophe, et de sa manière de réinventer les choses, de ne pas se laisser prendre, enfin, de déjouer les choses et de remettre le sens là où il est, c'est-à-dire... pas le sens convenu parce qu'on a l'habitude, mais justement de toujours réinterroger. Et à un moment donné, ils disent, mais vous êtes sûr que c'est un garage, que c'est pas une piscine ou une plage, parce qu'on a dit un jour que c'était un garage. Mais donc ça c'est des choses qui nous intéressent avec la compagnie depuis un moment. Donc c'était une manière d'aller vers quelque chose qu'on aimait, mais qui n'était pas complètement écrit par nous aussi.
Les mots sont une cage, dit Ferdinand. Est-ce que justement cette compagnie L'Air de Rien, c'est aussi une manière de désencager peut-être les mots ou le texte?
Oui, d'ailleurs, c'est Aragon qui dit ça, cette cache des mots, j'aimerais en sortir. Oui, on essaie aussi de travailler sur les mots, enfin sur les idées reçues aussi que contiennent les mots, et sur le côté figé des mots.
Alors, ultime chose, vous faites apparaître effectivement Nicolas Rossier en Jean-Luc Godard à la fin, ou en figure de Jean-Luc Godard, un petit peu comme... je ne sais pas si lui-même apparaissait dans ses films, mais ça fait un peu Hitchcockien. Donc, c'est vrai qu'il y a souvent des répétitions, donc dans des phrases qui se répètent dans la pièce. Ici, c'est la nomination avec les voici. Alors, ça correspondait à quoi, en fait?
Godard avait fait, je vous conseille d'ailleurs, un documentaire il y a 20 ans sur Passion. Il expliquait le scénario de Passion. C'était magnifique. Il partait de l'écran blanc. Et il disait comment justement naissait son scénario, alors que c'était vraiment par association d'idées ou des associations d'images. Et dans ce reportage, tout d'un coup, il dit ce texte à la fin pour parler de ce que c'est que le cinéma. Et c'est tellement beau qu'il fallait le mettre. Donc plein de choses hein, qu'il a dit dans des documentaires ou des choses comme ça qu'on a mis ou on a vu aussi une émission avec Christian Defaille il y a 30 ans où justement les gens l'agressaient. Lui était resté tout gentil, tout calme, disant mais c'est n'importe quoi, vous jetez une patate, puis c'est de l'art et tout ça. Puis il disait mais c'est pas une patate, c'est un tintoret, c'est de la peinture. Donc c'est des choses comme ça qu'on a reglissées.
Qu'est-ce qu'il en est justement? Vous avez peut-être vu cette adaptation qui avait fait, enfin c'est pas cette adaptation, c'est une transposition de Dorian Russell, donc qu'il avait réalisé notamment au théâtre de l'usine, de La Maman et de la Putain de Jean Eustache. Il y a aussi, c'est vrai que le voyage peut-être du théâtre au cinéma est parfois plus évident. Qu'est-ce qu'il en est justement quand même des difficultés qu'on peut rencontrer, parce que vous avez non seulement, vous êtes non seulement pas limité au matériau Godard, mais vous l'avez, non pas fertilisé, mais en tout cas fait dialoguer avec d'autres. Lorsque le film est sorti, on en faisait des bandes-annonces absolument incroyables, c'est-à-dire qu'on disait que c'était comme des films d'Elsman, je crois qu'il était un cinéaste américain qui avait écrit des thrillers, revus par Raymond Queneau. Enfin, on disait que c'était le dernier film romantique possible. Depuis lors, il y a beaucoup de films qui sont passés. Il y a eu Bonnie and Clyde, Sailor and Lula, Tueur Né d'Oliver Stone, enfin ces couples meurtriers. Qu'est-ce qui pour vous fait la singularité de ce couple dans la pièce entre Ferdinand et...
Je me suis amusée avec ça, j'ai mis plein de Gainsbourg évidemment parce que ça fait penser à ça. Mais c'est vrai que, mais comme Godard dans le film, c'est quelque chose, c'est une allusion, mais c'est pas non plus, c'est pas un polar où on tremble de peur en se disant qu'est-ce qui va arriver. Et puis là au théâtre non plus, c'est un prétexte. Donc on s'est amusé avec ce prétexte, mais on l'a pas non plus, c'est pas ce qui nous a le plus intéressé. On l'a évoqué, on en avait besoin, mais on ne l'a pas non plus poussé.
Dernière chose, vous avez quand même actualisé un certain nombre de références au niveau des chansons, puisqu'il y a Tes yeux couleur mentalo, je sais que ce n'est pas le titre, mais d'Eddie Mitchell, qui est donc récité par Nicolas Rossier, qui partira avec une partie, avec son décor, en fait, en pied, un pilier de bain. Qu'est-ce qu'il en était justement de ce rapport en fait, aux chansons? Parce qu'en même temps, on n'est pas dans du Jacques Denis, mais parfois il y a cette notion de choralité, voilà, un petit peu.
C'est vrai que c'était étonnant, parce que ça fait quand même un peu comédie musicale, comme il passe d'un genre à l'autre dans le film, de la comédie musicale au documentaire, à la BD. Donc là aussi, il ne s'agissait pas de tout d'un coup que les comédiens prennent des cours de chant et qu'ils deviennent des virtuoses. Je crois que c'est plus l'interprétation était plus intéressante, les failles sont intéressantes. Et puis du coup, on n'a pas fait des accompagnements majeurs dans ces chansons-là. Souvent ils sont a cappella, ou parce que justement pour ne pas partir dans Notre-Dame de Paris et puis faire quelque chose qui reste simple. Je crois qu'on a beaucoup travaillé sur la simplicité et qu'on a inventé des outils quand on en avait besoin, mais quand on n'en avait pas besoin, pas du tout, pas trop d'effets.
Est-ce que par rapport à Pierrot le Fou, vous n'êtes pas parti un petit peu, je dirais pas de l'histoire la plus simple ou la plus évidente de Godard, mais c'est vrai que c'est plus facile tout de même peut-être à aborder que Détective ou Passion, quoique. Qu'est-ce qu'il en était en fait par rapport à ça? Pourquoi avoir jeté votre dévolu sur ce film de 65 alors qu'il y a Le Mépris, il y en a tant d'autres? Qu'est-ce qu'il conjuguait un peu en vous?
C'était déjà un peu d'humilité, c'est-à-dire que pour partir sur une enquête sur Godard, je pense qu'il ne faut pas partir sur les derniers films. Il faut déjà essayer de comprendre le début de sa démarche. Donc c'était ça, et ça m'a déjà pris beaucoup de temps. Donc maintenant, je comprends mieux aussi son cheminement après. Mais... Et puis, parce que... Par intuition, je crois. C'était une idée comme ça qu'on a jetée. Ouais, je crois que c'était ça. Pourquoi pas le mépris, c'est vrai. Pourquoi pas... Je pense que le mépris est plus réussi. Donc c'est... Avec Pierre Oulfou, c'était quand même une comédie. C'était quand même... On partait, tout le monde dit, oh, un film mythique. Oui, c'est un film mythique, mais qui a ses défauts, qui a ses failles, qui a sa beauté, mais qui reste vivant et qu'on peut déconstruire, ou on peut s'amuser avec. Le mépris, c'est plus... Pour moi, ça serait plus difficile.
Mais vous ne partagez pas tout de même l'admiration absolument peut-être excessive d'Aragon, qui parlait de ce film comme étant le plus sublime de l'histoire du cinéma.
Sans doute. Mais c'est vrai que moi, je l'ai regardé 300 fois. Donc, je vois aussi là où... tiens, je dis, le texte était magnifique, mais les comédiens, on l'entend pas. Ou des petites choses. Ou alors, on voit bien que c'était fait aussi très vite. Donc, il y a des choses qui ne sont pas toutes abouties non plus. Mais... Avec toute la côté grandiose du film, hein, je suis pas en train de le remettre en question. Mais on n'est pas parti en disant c'est parfait, c'est pas parfait. Et la pièce non plus. Donc ça, tant que ça reste vivant et touchable, je pense que c'est ça le travail. Donc facile, pas facile. Oui, moi je pense que c'était en tout cas, ça permettait, comme il y avait aussi un début de trame et qu'il était à une époque de sa démarche où il utilisait encore la trame mais il s'en débarrassait un petit peu, c'était intéressant de montrer ça.
Bon, justement, dernière chose, vous ne présentez aucune image, mais par contre vous citez dès le départ le cinéma avec ses rails pour un travelling. Qu'est-ce que ça avait comme avantage aussi par rapport à la grammaire cinématographique, si j'ose dire, de Godard, c'est-à-dire qu'il utilise aussi beaucoup ce type de travelling. Notamment, il y a un moment donné sur le meurtre avec le personnage du gangster, et puis lorsqu'il tue sa compagne, où il y a effectivement également des parois mobiles qui bougent, où il y a un petit peu comme un entre-image, comme il y a un petit peu quelque chose entre un espace entre les êtres aussi. Qu'est-ce qu'il en était par rapport à ça?
C'est vrai que le travelling, c'était aussi pour permettre des plans différents, c'est-à-dire qu'il pouvait passer deux choses ou trois choses en même temps, sur le même plan, et puis que, comme on est au théâtre, on n'arrive pas à passer d'un plan à l'autre, il fallait quand même qu'on voie des choses passer. Là, je pense même qu'il y aurait plus, on l'aurait plus utilisé, mais voilà. Et puis j'aime bien. J'aime bien, parce que c'est... On voulait un tapis roulant, comme dans un aéroport qui fasse le tour, mais... C'est trop cher.
Et puis cette jeune femme en rose, simplement Hélène Catin, qui chante Rien de rien. Alors, c'est pas un hymne nihiliste ou autre, mais comment est-ce que vous avez juste simplement reçu cette chanson? C'est pas Rien de rien, mais c'est L'air de rien, je
pense. Non, c'est une chanson de Gainsbourg, C'est petit rien. Parce que moi, pour moi, c'est très familier avec Godard. Enfin, c'est vrai qu'aussi, quand j'ai aimé Godard, j'étais plus jeune, j'aimais Gainsbourg et puis j'aimais Duras. Puis... Je trouve que ça, Anna Karina a fait une comédie musicale en même temps avec Gainsbourg, et puis c'est le même, c'est quand même le même univers. J'ai l'impression, enfin, ça me parlait en tout cas de mettre ces chansons de Gainsbourg. Puis c'était aussi le bon moment de le remettre sur scène. Ça aurait été trop tôt avant, je pense, de mettre des. Puis Godard aussi, c'était le bon moment de le mettre au théâtre, je crois. Je sais pas. Les deux.
Pour le langage, au départ, il y a la petite fille qui demande qu'est-ce que le langage, et puis je crois qu'il dit c'est la maison, c'est là où il y a la maison, où c'est une forme de logement, une manière d'habiter le temps ou l'être. Qu'est-ce qu'il en est justement sur ce début par rapport à ce que sont les mots, ce qu'ils peuvent, ce qu'ils ne peuvent pas, comment vous l'avez ressenti?
C'est la maison où tu habites, ouais. Il n'arrête pas de parler des mots comme ça, comme des choses avec des murs. Cette cache des mots, enfin, je pense que c'est tout cet univers-là, et puis c'est une manière, je pense, de dire que le mot n'est que ce que nous connaissons, c'est-à-dire qu'il ne représentera que ce qu'on connaît et que ça parlera jamais de la liberté de ce qu'on ne connaît pas et qu'on ne verra jamais. Donc je pense que c'est cette impression-là, et c'est vrai qu'on a. Ce qui est terrible, c'est qu'on ne projette, comme il dit Godard, que ce qu'on connaît. Et comment faire pour rester curieux, pour aller voir ailleurs, et rester ouvert vers ce qu'on ne connaît pas. Donc je pense que c'est aussi ça dont il parlait avec le langage souvent. Il est que ce qu'on connaît.
Merci Sandra Gaudin. Merci beaucoup pour cet impromptu. Et puis...
genèveactive.ch